Radio Grand Air.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me fends le cœur.
Si je connaissais le con qui a fait ça, c'est bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
S'il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et ça y est, on allume les projecteurs, la salle est ouverte, les salles vous attendent à la Brèche et on va pouvoir voir de belles choses cette semaine. Et oui, notre séance cinéma, c'est parti. Bonjour Pascal.
Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 68 d'Entracte.
Eh oui, 68, avec cette semaine, 7 rendez-vous que tu as choisi au sommaire de l'émission, Pascal.
Ah oui, bon, c'est 7 films parmi tant d'autres, hein, t'imagines bien à chaque fois. Donc, on va parler du dernier film de Cécile Tellerman, Ma langue au chat. On va parler également aussi, on va partir au Japon là, un film qui vraiment apparemment qui va être vraiment sympa, je pense. On va parler du dernier film d'Hajime Hashimoto, Okuzai. On va parler d'enluminure de peinture. On va parler également aussi du dernier film de Kim Chapiron, Le jeune imam, ainsi que du dernier film de Julie Jung. On va partir en Corée là, on va parler de About Kim Soo-hee. On va parler aussi, on va passer un documentaire là, de Nicolas Philibert, son dernier documentaire sur l'Adamante. Donc c'est le bateau thérapeutique qui est sur la Seine. Et on va plonger dans l'histoire. On va parler du dernier film de Mai Wen, Jeanne du Barry, que nous aurons en avant-première.
Ah ça c'est chouette.
À la Brèche. Et dans le cadre de la sortie donc du film Ma langue au chat, ben j'ai choisi Pascal Elbé.
Très bon acteur.
On n'en parle pas trop.
Ouais.
On n'en parle pas trop, mais il est pas qu'acteur, hein, tu sais, il est réalisateur aussi. Il a réalisé des films et tout, donc on va faire un petit coup de projecteur un petit peu sur sa carrière.
Très bien. Eh bien, écoute, on a hâte de découvrir tout cela ensemble sur la radio, Radio Grand Air, la radio du cinéma. Et bien sûr, nous allons à la Brèche, Sainte-Foy-la-Grande. Vos salles vous attendent. Et,
pas toujours.
Et de beaux films, bien évidemment, de bons rendez-vous en ce moment avec Artek. Et puis une sélection cette semaine qui donne envie d'aller donner sa langue au chat.
Absolument. On va commencer par là. Ma langue au chat, oui, le dernier film donc de Cécile Tellerman, c'est un film français d'1h43, c'est une comédie. Hein. Alors on va retrouver plein d'acteurs là, dont certains qui refont surface et que j'avais pas vu depuis très longtemps. Hein. Alors on va retrouver Zabo Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier, Marie-Josée Croze, ça fait longtemps.
Ah ça fait un siècle.
Ça fait longtemps,
là.
Oui. le dernier film dont je me souviens, c'est Ne le dis à personne. Pour te dire.
Ouais,
peut-être qu'il en a fait après. Peut-être que j'ai une mauvaise mémoire ou pas une bonne connaissance de sa carrière, mais Marie-Josée Croze, on la voit pas des masses aussi. Hein. Mm-hmm. Donc c'est très bien, on va la revoir dans ce film-là. On va retrouver aussi Pascal de Molon, Samuel Le Bihan, pareil. Alors Samuel Le Bihan, moi, des fois, je le vois jouer dans des téléfilms, tout ça. Là, il revient un petit peu sur le grand écran.
Ah
là,
oui,
c'est
Samuel
très bien.
Le Bihan, oui. L'affaire Alex Hugo. Cette série sur la 2.
D'accord. Bah, je ne sais pas du tout.
T'as pas vu,
non, mais je regarde pas trop la télé, je t'avouerai.
D'accord.
Ou alors de très loin, tu vois, des fois, je regarde un petit peu ce qui se passe. Mais,
c'est une sorte de justicier à la française, police rurale qui enquête dans les Alpes, je ne sais plus où c'était. Enfin, ça se passe, dans la montagne. C'est très, très, très sympa comme série.
D'accord. Je sais qu'ils ont produit énormément, que ce soit la 3, la 2, et souvent c'est des trucs policiers, tout ça. Alors moi je suis pas un grand passionné de téléfilms policiers, mais je regarde ça un petit peu loin, quoi, juste pour me rendre compte un petit peu de ce qui se passe, quoi. pour terminer, donc, au niveau des acteurs, on va retrouver Camille Lelouch et Mathias Lécluse. Donc, à l'aube donc, de la cinquantaine, Laure ne supporte plus rien, ni son travail, ni son mari, Daniel, ni sa vie. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux et constitue son seul allié est Max, son chat. Lorsque ses amis de toujours débarquent à la campagne pour fêter l'anniversaire de Daniel et que Max, le chat, disparaît, Laure disjoncte et se met à enquêter. Qui a fait disparaître Max? Qui est le coupable? Laure n'est pas au bout de ses surprises.
La crise de la cinquantaine, alors?
Je sais pas. Tu sais, il y en a... Alors, j'ai entendu bien des choses. La crise de la trentaine.
Ah oui, il y a toujours des étapes.
Je l'ai jamais vue. La crise de la quarantaine, je l'ai pas vue. La crise de la cinquantaine, je l'attends toujours. Ça va.
Va-t-elle venir?
Tout va bien, ouais. Donc, Malangocha, alors, au niveau de la genèse, comment est né ce film-là? Donc, Cécile Tellerman s'est inspirée de sa propre relation avec son chat, dont elle avoue être totalement gâteuse, pour écrire Malangocha. Avec son mari, elle possède une maison dans un village du sud-ouest où elle a l'habitude d'amener son animal de compagnie. C'est en observant sa relation fusionnelle avec son chat que le scénariste, donc Xavier Daugreuil, a eu l'idée d'un pitch. Que se passerait-il si j'invitais des amis à la campagne et qu'un d'eux écrasait mon chat par mégarde? Cela remettrait-il en question mon amitié avec lui? On a gambergé et on s'est dit qu'on tenait peut-être là un bon début, et même, pourquoi pas, un ressort de comédie à suspense, se souvient la réalisatrice.
Alors c'est vrai que le chat revient souvent dans des scénarios. Est-ce que c'est un animal effectivement bienfaisant? On dit que le chat est un animal bienfaisant.
Ouais, pour certains, d'autres maléfiques, quand il est noir et qu'il te traverse la route, tu vois. Non, mais ça a toujours été, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai.
Pour les superstitieux. Après, c'est vrai que le chat, ouais, tu le retrouves dans quand même pas mal de scénarios. Je sais pas, je repense au film de Clapiche.
Oui.
Qui a très bien fonctionné.
Ah oui, oui, oui.
Chacun
oui.
cherche son chat.
Ah oui, c'est vrai.
Donc évidemment, c'est un sujet rarement évoqué au cinéma. Donc la réalisatrice a voulu traiter de la ménopause, une période charnière pour les femmes. Et elle nous dit, peut-être parce que j'étais passé par là, j'ai eu envie de parler des femmes de plus de 50 ans. Celles dont les hormones font des leurs et qui sont fatiguées, désenchantées et souvent d'humeur sombre. Ce n'est pas très marrant d'être à ce tournant de la vie où les réalités sociales et biologiques semblent prendre le pas sur les désirs. Et elle ajoute, mais en même temps, restons mesurés. La ménopause n'est pas une maladie, juste un passage qui, avec du recul et de l'humour, peut donner lieu à des situations cocasses et drôlatiques. On peut donc s'autoriser à en parler sérieusement, mais avec légèreté. Donc, elle a voulu donc mêler la comédie et l'enquête policière. Donc, Malangocha est une comédie sociale sur les problèmes de la cinquantaine qui repose sur les ressorts d'une enquête policière. Et Cécile Tellerman voulait faire un thriller depuis longtemps, mais, comme elle nous dit, on me rétorquait que mon truc, c'était les films de femmes et que dans mon intérêt, je devais y rester. Avec ce long métrage, elle peut franchir cette ligne qu'elle n'osait franchir. Une femme enquête pour découvrir la vérité sur la disparition de son matou chéri. Et quand cette vérité éclate et que les masques tombent, elle en découvre de belles sur le mal-être de ses copains et sur la façon dont ils s'arrangent avec eux-mêmes pour cacher leur bobo existentiel. Et alors, il a fallu diriger un chat.
Ah oui,
oui, c'est pas simple.
Alors, ça se dompte bien, un chat.
Ah ben, je sais pas.
Moi, j'ai connu des.
Il a la réputation d'être super.
Ah ben, c'était
super
sûr,
indépendant,
ça
quand même.
Être, oui, c'est indépendant, c'est un peu têtu. Ouais. Mais ça peut se dresser. Moi, je me rappelle, enfant, j'avais parmi les attractions de foraines qui existaient pas très très loin d'ici,
ouais.
Il y avait une sorte de cirque avec des chats dressés.
D'accord. C'est vrai. Les pauvres, je savais pas.
On dresse bien des puces.
Oui.
Pourquoi pas les chats?
Donc il fallait diriger un chat, évidemment. Donc Cécile Tellerman a dû faire preuve de patience pour diriger Max le chat, qui avait, comme elle dit, heureusement un péché mignon, il adorait le melon.
Ah bon?
Oui, je répète, il adorait le melon. Encore faut-il être à la bonne saison.
Ça se trouve, il est du Porto.
Oui. Ah, pourquoi pas. Il faut être à la bonne saison. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, là, ouais, oui. Dès qu'on voulait qu'il aille quelque part, on en planquait à l'endroit où il devait se rendre. On en mettait même dans ses croquettes. Ça a marché assez bien, sauf pour une scène qui se déroulait dans la chambre de Zabou et de Pascal Elbé. Il a filé sous le lit. On a attendu une heure dans le silence qu'il ressorte. Comme je ne pouvais pas m'offrir le luxe de dépassement, ouais, j'ai failli laisser tomber et prendre ma bonne humeur. Et perdre ma bonne humeur. La prochaine fois, je ferai un casting et je choisirai un matou sociable et affectueux. Donc, je crois que le chat, il a fait grève aussi. Hein.
Tu m'étonnes.
T'imagines, parce que bon, évidemment, toi, tu
vois. Ça fait long.
Nous, on le voit à l'écran, le chat, mais imagine, lui, ce que voit le chat.
Et surtout qu'un chat, c'est dormeur, hein. Ça dort 36 heures par jour.
Ouais, il y a ça, mais il y a aussi.
36 heures, oui, c'est plus que.
Imagine le paquet de gens dans la piole.
Oui.
Toute équipe technique. T'es comment t'es, tu vois ce que je veux dire, le chat, au bout d'un moment, je crois qu'il a envie d'un peu de calme et d'intimité. Donc, Malangocha a été tourné à Colonzel, un village de la Drôme à côté de Grignan. À l'exception de Zabou Breitman, tous les comédiens logés à Grignan dans le même hôtel qui avait été ouvert pour eux durant le confinement. Voilà. Donc, c'est pour vous éclairer un petit peu sur le Malangocha. Donc.
À la crise de la cinquantaine.
Ouais, ouais.
Alors pourquoi pas?
Donc le dernier film de Cécile Tellerman qu'on passe à la brèche cette semaine.
Et à Pascal, on va écouter la bande-annonce et on se retrouve juste après. On donne sa langue au chat.
Oh là là.
Tu lui parles beaucoup ces temps-ci, non? T'es au courant qu'il comprend rien de ce que tu lui dis?
Toi non plus, tu comprends rien de ce que je te dis.
Chat d'amour, allez, viens manger. Tu l'as vu le chat ce matin?
Non, non.
Qu'est-ce qui s'est levé le premier ce matin?
Moi.
T'as pas vu le chat?
Non.
Vous l'avez bien enfermé cette nuit?
Ah ouais?
Oh putain, merde, tant pis pour toi, je vais pas t'attendre toute la nuit.
Hein, chat, il y en a
un. Hein. Bon, bah, il est toujours pas rentré, c'est pas normal. Ah, dis, André, t'aurais pas vu notre chat par hasard?
Ce matin, j'ai vu un gars dans une voiture, et il tenait un truc gris.
Quelqu'un a écrasé le chat? Quelqu'un vient dans sous notre toit.
T'as pas encore tout ce que dit André quand même.
Est-ce qu'il y en a pas un d'entre vous qui est sorti hier matin et qui a pris sa voiture?
Non. Mais
non.
Tu crois quand même pas que l'un d'entre nous aurait écrasé ton chat?
Non, fais pas ça. Non. J'aimerais que notre vie redevienne comme avant.
T'as vu dans quel état ça l'a mis?
Non, à mon avis, y a pas que le chat. Si t'avais mis une puce à ton chat et que tu savais te servir de ton téléphone, ton chat l'aurait déjà retrouvé. Et t'arrêterais de nous faire chier.
Voilà, Ma langue au chat, une comédie de Cécile Tellerman à voir absolument cette semaine à La Brèche. Je pense qu'on va passer un bon moment.
Oui, je pense aussi, oui, ça va être une comédie sympa.
On enchaîne avec notre rendez-vous. Cette fois-ci, nous allons retrouver une production japonaise.
Absolument. On va aller faire un voyage dans le temps, un voyage dans l'histoire du Japon.
Dans l'art.
Dans l'art, exactement, oui. On va parler d'Okuzai, le dernier film d'Hajime Hashimoto. Alors, c'est un film japonais d'1h30, c'est un drame biopic historique. Hein. Alors, évidemment, il y a les acteurs. Oui,
bon
les
courage.
Acteurs japonais, mes
on
préférés.
Prend mais ouais, sa tu respiration.
Vois, ouais, moi, je peux passer à côté, mais moi, j'aime pas trop. Quoi. J'aime bien leur rendre honneur aux acteurs, même si c'est difficile.
Mais ils nous écoutent. Hein.
À prononcer, en plus, ils nous écoutent. On va retrouver Yuya Yagira. Min Tanaka, Hiroshi Abe, Hiroshi Tamaki, Eita Nagayama, Miyori Takimoto, Kanji Tsuda et Munetaka Aoki.
Bravo Pascal, bravo. Tu les as bien dit ces noms.
Alors merci. Je ne sais pas si c'est le bon accent, mais enfin voilà. Ou la bonne intonation, parce que c'est un peu spécial, le japonais.
Ah, il faut forcer sur la voix, non?
Oh, je ne sais pas trop. C'est ça.
Ça sort de l'intérieur.
C'est vrai, ça vient par le ventre. Tu sais. Le Japon énigmatique du XVIIe siècle. Alors que le pouvoir impérial impose sa censure sur les artistes, le jeune Shunro, apprenti peintre, est exclu de son école à cause de son tempérament impétueux et du style peu conventionnel de ses estampes. Personne n'imagine alors qu'il deviendra Okuzai, célèbre auteur de la grande vague de Kanagawa. Alors là, il y a une grosse page d'histoire hein, dans l'art japonais. Hein. Donc, évidemment, c'est un peintre légendaire. Donc, Katsushika Okuzai est né en 1760 dans les quartiers populaires d'Edo. Alors, Edo, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'était la capitale impériale du Japon.
D'accord.
Mes souvenirs sont bons. Donc, là, c'est... C'est ça, c'est l'ancien nom de Tokyo. Ah non, Edo est l'ancien nom de Tokyo. Il montre très tôt des dispositions pour le dessin. Après s'être formé dans plusieurs écoles, il publie ses premiers recueils et prend au tournant du 19e siècle le nom d'Okuzai. Littéralement, l'atelier du Nord, en hommage à l'étoile polaire qui incarne la divinité bouddhique Myoken. Il publie en 1814 le premier des 15 volumes. 15 volumes des Okuzai manga, recueil de dessins aux sujets variés comme la faune, la flore, les courtisanes, les marchands, les scènes de guerre, qui constituent aujourd'hui de précieux témoignages sur la vie à l'époque d'Edo. C'est en 1830, à l'âge de 70 ans, qu'il publie son chef-d'œuvre, Les 36 vues du mont Fuji, série d'estampes de paysages nées de ses nombreux voyages à travers le Japon et dans lequel on retrouve le plus emblématique de ses travaux, la grande vague de Kanagawa. Les difficultés financières et l'incendie qui ravage son atelier en 1839 n'auront pas raison de son obsession pour le dessin. Véritable bourreau de travail, Okuzai meurt à l'âge de 89 ans en laissant derrière lui, dis-moi le chiffre du nombre de dessins.
Oh, comme ça là.
En laissant derrière lui plus de
10 000.
C'est pas mal, mais t'es encore sur la piste.
La 1000.
Un peu plus.
25.
30 000 dessins.
C'est énorme.
Je me demande s'il dessinait pas la nuit aussi. Vraiment, ouais. 30 000 dessins. Je sais pas si moi un artiste qui en a laissé autant derrière lui, je crois qu'ils sont pas épais. Donc la grande vague de Kanagawa, donc l'œuvre la plus connue de Okuzai, donc la grande vague de Kanagawa, est aussi l'œuvre de l'ukiyo, qui signifie image d'un monde éphémère et flottant. Mouvement artistique auquel se rattachent les estampes gravées sur bois. Elle a été produite à de nombreux exemplaires dont le nombre exact est inconnu. Elle fait partie d'une série de 46 représentations du mont Fuji, nommée paradoxalement des 36 vues du mont Fuji. Fermement ancrée dans l'imaginaire collectif et la pop culture comme l'un des symboles les plus évidents de la culture japonaise, elle est représentative du style unique de Okuzai et de son apport à l'art japonais et européen. Alors, comment appréhender un artiste aussi illustre? Donc, le réalisateur ne voulait pas représenter Okuzai comme une personnalité qui serait au-dessus du commun des mortels, mais de montrer au contraire comme un être humain normal. Et comme nous dit le réalisateur, je voulais à tout prix éviter d'en faire le biopic d'un homme hors du commun. C'était quelqu'un de remarquable, mais il n'était pas inaccessible. Il a dû faire des efforts et a connu des difficultés. J'ai pris la liberté d'imaginer que la jalousie et l'esprit de compétition avaient peut-être été le moteur de sa créativité. Et moi, je dirais même de sa censure. Donc, le processus de production des peintures japonaises traditionnelles n'implique pas beaucoup de mouvements. Plutôt que d'avoir recours à des artifices de mise en scène pour le rendre spectaculaire, j'ai essayé de montrer la particularité de chaque peintre à travers la façon dont il tient ses pinceaux, par exemple, précise Hajime Hashimoto. Le film a été supervisé par Daisuke Mukai de l'Université des Arts de Tokyo, qui a montré aux acteurs comment tenir leurs pinceaux et qui, en examinant les différentes œuvres, était chargé de signaler toute éventuelle incohérence ou manque de naturel dans le film. Autant te dire que c'était pointu, hein.
Ah oui.
Pour les scènes de fabrication d'estampes, l'équipe a fait appel à des artisans contemporains qui ont été filmés pendant toutes les étapes. Le réalisateur se souvient, j'ai été impressionné de voir que les techniques ancestrales de production des estampes ont été fidèlement transmises jusqu'à nos jours et que des tirages réalisés de la même manière qu'à l'époque d'Edo ont pu être utilisés dans le film. Moi je dis bravo,
ouais.
Chapeau, c'est technique. Pour tous les amateurs d'art, même s'ils n'y connaissent rien à l'art japonais, ben, moi je dis allez voir Okuzai, ça sera une grande leçon. Une grande leçon d'estampe, de dessin, de tenue de pinceau. Enfin voilà, parce que je ne sais pas si vous connaissez.
La patience. Peu.
Oui. Déjà, tu as la calligraphie, qui est déjà un art poussé au Japon. Mais là, on est vraiment dans les estampes et tout. Moi, j'aime beaucoup l'art japonais. J'y connais absolument rien. Je suis incapable de te citer.
On va appeler une amie. Hein, alors, qui va nous renseigner.
Il y a Okuzai. Ouais. Mais déjà, il faut dire une chose. L'affiche. Alors, tu peux pas la voir d'ici parce que je l'ai mise de l'autre côté.
Ah, tu l'as dans le couloir.
L'affiche est superbe. Non, elle n'est pas dans le couloir, elle est juste là-bas, de ce côté-là. L'affiche est vraiment, vraiment superbe. Donc voilà, moi, je vous encourage vraiment à venir découvrir ou redécouvrir Okuzai et visiter le Japon à cette époque-là. Voilà, le dernier film donc, de Hajime Hashimoto, Okuzai.
Voilà, avec
un peintre légendaire.
La cerise sur le gâteau, en version sous-titrée, mais originale.
Ah oui, bien sûr. Attends, t'imagines en français, c'est une catastrophe. Ça serait une catastrophe.
Il y a assez noté pour cette leçon d'art, Pascal. On enchaîne avec un autre rendez-vous cette semaine. On revient avec une production française. C'est une comédie de Frédéric Quirin.
Quirin, ouais.
Et qui nous propose un bon rendez-vous, à mon avis, qui va être sympa. On va rigoler, je pense.
On va parler de mariage.
De mariage, on va passer du bon temps. Là.
Voilà. notre tout petit mariage. Un film français, ouais.
Pourtant tout petit mariage.
Il est deux fois petit. Film français d'une heure 23, c'est une comédie donc de Frédéric Guirin. Alors, au niveau des acteurs, on va retrouver Ahmed Silla, Camille Lou, Grégoire Bonnet, Marc Rizzo, Barbara Bolitner, Andrea Ferréol, Anne Caillon et Denis Mpunga. Donc c'est l'histoire de Max et Lou qui se sont fait une promesse. Pour leur mariage, ce sera seulement eux et leurs témoins. Mais ça, c'est sans compter sur l'énorme fête surprise qui les attend. Ils voulaient être 4, ils se retrouvent à 300 et tout va très vite devenir incontrôlable. Ils rêvaient tout petit, ils auront grand, très très grand.
J'imagine, ouais.
J'imagine la blague, la mauvaise blague.
Ouais, puis en plus, c'est pas les mêmes tarifs. Hein.
C'est pas la même chose, ouais.
J'espère qu'ils ont prévu la salle. Hein.
Ah ben 300, oui, voilà, il faut des acrystales. Donc c'est pendant le confinement. Alors tu vois, à chaque fois, on revient au confinement.
Oui,
comme
vrai.
Quoi, mais comme quoi
il y
le confinement.
Il y a un petit décalage et ça sort maintenant, ouais.
Mais souvent, c'est les scénarios qui sont nés à cette époque-là.
Ah ouais, ok.
Plus que les tours. Alors évidemment, il y a des tournages en cours, donc il fallait vraiment les achever ou, voilà, en changeant un petit peu de disposition. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été créées pendant le confinement. Quand tu restes toute la journée chez toi, emprisonné,
ah oui, t'as le temps de penser.
Le temps. Ouais, t'as toute la journée pour écrire, ouais. Tu vois. C'est ça qui est chouette. Donc c'est pendant le confinement que Frédéric Guirin a eu l'idée du scénario de notre tout petit mariage. Et le réalisateur se rappelle. Étrangement, c'était un moment où on n'avait pas le droit de voir nos parents, nos amis, de faire la fête, de se marrer. Et tout à coup, dans ce contexte, j'ai eu envie de faire un film sur une gigantesque fête qui réunissait tous ces gens-là. J'en ai parlé à mon producteur, Michael Bécassis, qui m'accompagne depuis mes débuts. D'autant plus que je savais qu'il voulait produire un film de mariage depuis longtemps. On s'est alors dit que c'était l'occasion idéale. Donc le père de la mariée, donc mon beau-père et moi, le mariage de mon meilleur ami, 4 mariages et un enterrement, Frédéric Guirin est fan de comédie de mariage. C'est vrai que 4 mariages et un enterrement, celui-ci a fait du bruit. C'est un film anglais,
vrai.
Tu t'en souviens?
Oui, je m'en rappelle, oui.
Avec Chris Kingscott Thomas, il y en avait toute une pléiade d'acteurs, il mettait vraiment très très bien. Donc Frédéric Guirin est fan de comédie de mariage, il précise. C'est un registre très fédérateur où toutes les générations peuvent trouver leur compte et s'amuser. Et ensuite, c'est un genre très codifié qui offre des rendez-vous avec le spectateur. Donc le choix de la robe, la cérémonie à la mairie ou à l'église, le lancer de bouquet, le discours, le banquet, la première danse. On peut alors détourner ces rendez-vous, jouer avec eux et créer des situations de comédie. En outre, les comédies de mariage sont toujours des films choraux qui permettent de s'amuser avec des personnages aux tonalités différentes. Donc Frédéric Guirin a opté pour un dispositif de found footage. Le metteur en scène s'y est intéressé pendant le tournage de La Très Très Grande Classe où il a constamment dû réinventer la mise en scène avec beaucoup de machinerie. Il se souvient. Pourtant, la bagarre de la fin avait été entièrement filmée à l'iPhone et j'avais ressenti un tel sentiment de liberté que j'ai voulu appliquer ce dispositif à un film tout entier. Alors c'est vrai que tu dans certains films, oui.
À l'iPhone.
Ouais, tu as des films, oui, quand tu comptes par exemple, je sais pas moi, tu as des scènes très intimes, ou tu vois, de fiesta à l'intérieur et tout. Je sais pas moi, quand tu regardes Very Bad Trip par exemple, tu vois, Very Bad Trip. Souvent, là c'est des photos. C'est des photos, alors, c'est pas un bon exemple, mais des fois, ouais, tu as des petites scénettes comme ça qui sont filmées à l'iPhone, oui. Et donc notre tout petit mariage est un peu le film souvenir que des témoins ou des amis, des mariés pourraient tourner sur un mariage. Et dans le même temps, la présence de la caméra met une vraie pression sur les protagonistes. Elle accentue le malaise et les tensions. Cela place aussi le spectateur dans une posture de voyeur et lui donne le sentiment d'assister à des scènes auxquelles il ne devrait pas assister. Et c'est vrai que ça donne un sentiment plus intimiste, tu vois. Donc au niveau des références cinématographiques, donc pendant l'écriture, Frédéric Guirin a revu tous les films tournés en found footage, donc c'est-à-dire donc avec un iPhone, hein, donc comme Blair Witch.
Ah oui.
Baby Sitting.
C'est assez vomitif quand même. Hein. Ça bouge beaucoup.
Blair Witch, oui, effectivement. Oui, si t'as pas le
caméra à l'épaule, ouais, enfin bon, c'est.
Si t'as pas le pied marin, t'es mal. Donc Baby Sitting, Cloverfield, ouais. Projet X, mais aussi les comédies des années 50 avec Jerry Lewis. Il note. On le sent beaucoup moins ici, mais si on va un peu vers le cartoonesque et le burlesque par moment. Mais je voulais surtout que ce film soit très solaire, très coloré, avec beaucoup de mouvements, comme une vraie fête de mariage où mes héros sont bousculés et ne savent jamais où donner de la tête. Donc évidemment, le marié, c'est Ahmed Silla.
Qui est un humoriste.
Oui, voilà. Qui a accepté de prendre part au projet car il s'agit d'une comédie romantique. Un genre auquel il ne s'était jamais, encore jamais prêté. Et comme il nous dit le réalisateur, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que toutes les scènes étaient filmées en iPhone. C'est une idée vraiment originale pour une comédie et c'est une véritable prouesse technique. J'ai trouvé le dispositif intéressant et j'avais envie de jouer avec Camille Lou, sa partenaire dans le film.
Oui.
Voilà un petit peu pour vous éclairer sur ce film, notre tout petit mariage. Donc la dernière création donc de Frédéric Quirin à découvrir à la Brèche cette semaine.
Eh bien écoute, on va faire un petit détour dans les coulisses de la préparation du mariage et on se retrouve juste après.
Mademoiselle Lou Picard, acceptez-vous de m'épouser? Je suis désolé, j'étais pas sûr que tu dises oui, donc...
On va se marier! Grand mariage avec beaucoup, beaucoup de monde!
Ah non, tout petit mariage avec très peu de monde.
Ce sera juste nous deux et nos témoins, désolé.
Je viens d'apprendre que tu vas te marier!
C'est vrai?
Épouse secrète!
Je peux pas interdire à papa de venir.
Pour faire plaisir à beau papa, eh ben on fait ça chez lui.
Si tu veux, on peut aussi inviter ta famille.
Ah, du moins que t'as pas fait ça.
Je te jure que non.
Entrez! Je vous déclare unis par les liens du mariage. Bah, il commence bien notre tout petit mariage, là.
Ah, en tout cas, vous avez une jolie tribu, hein.
On va dire tribu parce que nous sommes noirs.
Je rigole!
Oh là là, il rigole, il rigole!
Vive les mariés!
Putain, mon gazon!
Petit mariage, grand, grand, grand mariage. T'es complètement dingue, Paul! Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai copié tous tes contacts et je les ai tous invités aujourd'hui.
Mamie? Mais qu'est-ce que tu fais là?
Roland Vallée.
Qu'est-ce qu'il y a? T'entends plus là?
J'ai la langue un peu pâteuse.
Petit! Grand! Petit!
Petit mariage!
Grand! Petit!
Ah, ça s'arrêtera jamais!
Ils vont faire sauter la baraque!
Ça, c'était de la teuf, mes chéris.
Voilà, Pascal, tu es invité au mariage.
Ah ouais, j'ai noté. Écoute, pourquoi pas, en tant qu'invité, oui, oui.
Non, ça a l'air assez sympa quand on regarde la bande-annonce, effectivement. On va passer du bon temps à regarder cette comédie française de Frédéric Quirin. On va revenir sur notre rendez-vous cette semaine, Pascal. C'est un registre tout à fait différent, mais intéressant, ouais, imam.
On va parler de choses un peu plus...
C'est du sérieux, là.
Un peu plus sérieux. Le jeune imam, c'est un film français d'1h38, c'est un drame de Kim Chapiron. Au niveau des acteurs, on va retrouver Abdoulaye Sissoko, Adibert Issaka Sauvadogo, Moussa Cissé, Anta Diab, Rebecca Brou, Fatih Achourtani et Nordine Hassani. Donc c'est l'histoire de... Donc à 14 ans, donc Ali est un adolescent à la dérive. Sa mère, qui l'élève, ne trouve d'autre solution que de l'envoyer au village, au Mali, pour finir son éducation. 10 ans plus tard, Ali revient. Malgré les doutes de sa mère auprès de qui il est prêt à tout pour briller, il devient imam de la cité. Adulé de tous et poussé par ses succès, Ali décide d'aider les fidèles à réaliser le rêve de tout musulman, faire le pèlerinage à la Mecque. Et c'est pas rien, parce que c'est pas simple.
Ah ouais?
Ah oui.
Oui.
C'est dur.
Bah, tu vas voir. Le pèlerinage à la Mecque, donc, est considéré comme un devoir pour les musulmans. Il a un caractère obligatoire, inscrit dans le Coran, pour tout musulman qui en a la capacité financière et physique. Le mot Hajj signifie toute personne qui a accompli ce pèlerinage. Il est alors accolé au nom de la personne comme marque honorifique quand on s'adresse à elle. Mais accomplir ce cinquième pilier de l'islam nécessite de la patience et des sacrifices financiers pour la plupart des musulmans de France. On estime le nombre de musulmans en France à 6 millions de personnes. En 2019, le consulat d'Arabie Saoudite en France a délivré entre 22 000 et 28 000 visas spécial Hajj. Pour ce voyage d'une vie, on estime le coût à prévoir pour un pèlerin entre 5 500 et 7 000 euros. C'est pas rien, hein?
Ah oui.
C'est pas un petit voyage.
C'est un budget, hein?
Ah, c'est un gros budget. Les visas sont valables un mois et permettent d'accéder à tous les lieux saints. Ils sont délivrés aux fidèles uniquement par le biais d'agences de voyage spécialisées, accréditées par le ministère saoudien. Des agences non agréées tentent de profiter des difficultés logistiques et financières que rencontrent les pèlerins pour s'enrichir illégalement. Toujours en 2019, il a été estimé qu'entre 2000 et 5000 fidèles musulmans ont découvert que leur voyage avait été annulé faute de visa valide juste avant leur départ. Ce sont parfois les économies de toute une vie qui sont ainsi spoliées. Et oui. Donc le scénario du jeune imam est inspiré de plusieurs faits divers autour des arnaques au pèlerinage à la Mecque. Ces derniers sont méconnus car ils touchent des populations fragiles, souvent âgées, qui n'utiliseront pas la justice ou les médias pour essayer de chercher réparation. Donc comme nous dit le réalisateur, donc cette histoire nous a touchés avec mon ami Ladj Lee et nous avons décidé d'écrire ce scénario ensemble. Il y a dedans aussi mon envie de parler des habitants de Montfermeil, ville où j'ai passé tous les étés de mon enfance. C'est là où a grandi ma mère, explique Kim Chapiron. Et il ajoute, j'ai toujours vécu avec des gens de différentes confessions, dont des musulmans. Il y avait une grande tendresse entre nous tous. Le jeune imam est né de vouloir évoquer cela. Je souhaitais, entre autres, filmer la religion musulmane pratiquée par une immense majorité silencieuse. Donc Kim Chapiron a également voulu filmer le jeune imam comme un thriller. Le danger dans le film est lié aux erreurs que tout le monde fait dans la vie et que fait le héros par excès d'orgueil quand il manque de prudence et que, par son inexpérience, il se retrouve au cœur d'une polémique. Et comme il nous dit, son attitude provoque un sentiment d'ambivalence. On l'aime et on le désavoue, puis peut-être on le comprendra. Ali veut faire le bien, mais il s'aperçoit qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Ce qui lui arrive peut devenir à toutes les jeunes gens du monde, confie le cinéaste. Et il poursuit. Pour moi, le film parle d'actes d'amour et de leur portée. C'est l'idée fondatrice de mon histoire, celle qui donne la confiance à Ali et lui permet de déployer son talent. Encore une fois. Donc le jeune imam décrit un monde de nuances. Il s'agit alors de partager des questions et d'y réfléchir en sortant du film. Et oui, c'est un univers que nous, on connaît très très peu. Alors moi, j'ai eu l'occasion vraiment de voir un documentaire vraiment sur le pèlerinage à la Mecque, avec justement toutes ces infrastructures qu'il y a autour du pèlerinage, c'est-à-dire la réception des pèlerins, tout ça, puis aussi tout le staff technique qui est autour, parce que mine de rien, tu reçois des milliers de gens. Donc c'était quand même assez intéressant à voir et voilà, j'ai appris plein de choses, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc le jeune imam, le dernier film de Kim Chapiron, donc à découvrir à la brèche cette semaine.
Eh bien, c'est noté Pascal. On va parler maintenant d'une production qui nous vient de Corée du Sud et là on va peut-être aller dans l'univers du travail, les conditions de travail exactement. Avec ce film en version originale sous-titrée, là aussi.
Mais tu penses bien. tu penses très bien qu'on n'allait pas vous passer un film coréen en version française. Alors parfois, évidemment, ça arrive qu'on passe des films en VF et en VO en parallèle. Mais pour des films comme ça spécifiques, oui, bien sûr que c'est en VO. Bien sûr. Et tant mieux. Mm-hmm. C'est quand même plus sympa.
Ça donne plus de profondeur, effectivement, au film.
Donc, About Kim So-hee. Donc, c'est un film coréen du Sud.
Oui, on précise.
Du Sud, mais oui, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, j'attends de pied ferme
les
films de la Corée du Nord. Ben oui, mais je me pose souvent des questions. Ont-ils un cinéma chez eux? Est-ce qu'il y a des créateurs? Est-ce qu'il y a des réalisateurs? Comment ça se passe? Moi, je me pose plein de questions là-dessus, quoi.
Et en Corée du Nord, on peut y aller, on voyage, on s'interdit.
Oui, si, bien sûr, tu peux y aller. Oui, absolument. Voilà, le pays n'est pas fermé.
D'accord.
Oui.
Bon, c'est une question comme ça.
Bon, c'est un voyage un peu spécial, mais oui, bien sûr. C'est, on va dire, ça ressemble au niveau du déroulement, ça ressemblerait un petit peu au voyage en Chine.
D'accord.
Tu vas pas où tu veux. Tu vois. Moi, j'ai mon oncle qui a voyagé un petit peu en Chine et à un moment, il se barre du groupe et il s'enfonce dans des ruelles pour faire des photos et tout, ça a pas duré longtemps. Ouais. Il s'est fait remettre dans le rang gentiment. Et effectivement, quand tu vas en Corée du Nord, tu as des gens qui sont là pour t'accompagner partout. Dès que tu sors de l'hôtel, ils sont là. Ils t'amènent dans un minibus et tout, ils te font balader, évidemment, ils te font voir tous les mausolées, les machins, les trucs, voilà. Il y a des choses à faire, ne pas faire, il faut honorer, on va dire, les anciens dirigeants, et voilà, enfin, c'est, en tout cas, le pays n'est pas fermé. Le pays n'est pas fermé. Par contre, tu n'es pas libre. Mmh. Voilà, c'est un voyage où tu observes énormément. Enfin, tu n'as pas d'interaction, tu vois, avec les gens. Par contre, ça c'est interdit.
Ah ouais.
Comme la Chine. C'est strictement interdit d'avoir des interactions avec les gens, à part le personnel des hôtels ou alors tes accompagnants, on va dire.
C'est glaçant.
Il y en a qui ont fait des films. Alors moi, j'en ai vu plusieurs.
Oui.
Franchement, j'en ai vu plusieurs. J'ai vu plusieurs films, enfin, de documentaires, de gens qui avaient ramené des images de là-bas et tout. Alors, c'est marrant parce que moi, j'en ai vu avec des journalistes, on va dire, accrédités, qui allaient là-bas, évidemment. Donc, on leur saute dessus. J'imagine que c'est les commissaires politiques ou j'en sais rien. En fait, voilà, des gens, voilà, ils sont très, très encadrés. Et j'en ai vu d'autres qui, plus ou moins, pas les mains libres, mais presque. Ils étaient dans la foule, ils assistaient à des défilés, des choses comme ça. Ils m'avaient pas l'air, on va dire, oppressés par les autorités locales, quoi. Donc, j'ai du mal à me faire une idée sur la Corée du Nord. Vraiment. Mais c'est sûr que quand tu es journaliste, que tu débarques là-bas, à Pyongyang, oui, ils t'attendent, hein, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'ils savent très bien que tu vas distiller des choses pas très joyeuses sur leur pays. Enfin, c'est vrai qu'ils sont critiqués partout. Alors évidemment, ils sont quand même assez agités au niveau de l'armement. C'est un pays guerrier quand même, hein, un peu énervé. Mais bon, faut pas oublier non plus aussi que c'est un pays qui se fait aussi pressurer par le monde occidental. Il faut pas oublier ça. Je me demande s'il y a pas des embargos sur certains produits, des choses comme ça. C'est pas terrible, hein, aussi. Hein, donc ça va pas les aider à s'épanouir. Hein, ça c'est sûr.
Donc là, on passe en Corée du Sud, ou c'est mieux?
Corée du Sud, ou alors c'est mieux, je sais pas. Tu vois, je ne connais pas la Corée du Sud. Mais après, c'est un pays, voilà, qui a été occidentalisé. C'est un pays qui a été américanisé. Ouais. Oui, c'est un pays de technologie. C'est vrai que c'est, au niveau industriel, c'est un pays technologique. Donc, oui, évidemment, la Corée du Sud. Donc, c'est un film de 2h17, c'est un drame policier. De Julie Jung. Au niveau des acteurs. Alors là, on est gâté. Tu vois, cette semaine, on est vachement gâté.
Ça va être encore plus dur, là.
Alors après, le Japon, la Corée. Doona Bae. Kim Si-hoon, Choi Yi-jin, Sim Ip-sop, Park Woo-young, Kim Woo-yoon, Woon Young-park. Alors Kim So-hee, qui est-elle? C'est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d'études, elle intègre un centre d'appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids de conditions de travail dégradantes et d'objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d'événements suspects survenus au sein de l'entreprise éveille l'attention des autorités locales. En charge de l'enquête, l'inspectrice Yoo-jin est profondément ébranlée par ce qu'elle découvre. Seule, elle remet en cause le système. Alors, Oba Kim So-hee donc, a été le film de clôture de la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes en 2022. Donc, fin 2016, dans une petite ville de Corée du Sud, à Jeonju, est survenu un drame lié à l'histoire d'une lycéenne qui suivit une formation professionnelle dans un centre d'appel pour une grande entreprise de téléphonie. Sa famille et les syndicats ont affirmé qu'il s'agissait d'un accident du travail. L'entreprise en question a fui devant ses responsabilités. L'indignation envers cette entreprise, dont les conditions de travail dégradantes ont été révélées, a été très violente et des excuses ont été présentées avec la promesse d'améliorer les conditions de travail. Suite à cela, la loi a été modifiée. Ce n'est que fin 2020, quand on lui a proposé d'en faire un film, que la réalisatrice, Oba Kim So-hee, a découvert ce fait divers. Donc, après avoir joué une policière dans A Girl at My Door, le précédent et premier long métrage de Julie Jung, Doona Bae incarne dans Oba Kim So-hee une détective. La réalisatrice ne pensait pas avoir accès à une actrice aussi célèbre quand elle préparait A Girl at My Door. C'est après l'avoir vu dans As One, sur l'histoire vraie de l'équipe féminine de tennis de table aux Jeux Olympiques, formée par les deux Corées, que la réalisatrice a eu un déclic et lui a envoyé le scénario par mail. 3 heures plus tard, l'actrice l'a contactée pour accepter le projet. 3 heures. Sous sa force quand même, hein, d'habitude, ouais. Tu réfléchis,
tu prends ton temps.
Leurs retrouvailles sur Oba Kim So-hee se sont déroulées naturellement, comme le raconte la cinéaste. Nous étions pas vus depuis 7 ans et elle a su saisir tout de suite mes intentions. Comment je voulais raconter cette histoire? Quel genre de film je cherchais à faire? À la fin du processus d'écriture, j'étais très inquiète. Cela faisait longtemps que je n'avais pas écrit. Grâce à Doona Bae, j'ai pu reprendre confiance dans mon scénario et dans le film que je souhaitais réaliser. Elle a été ma meilleure alliée. C'est une actrice exquise qui sait saisir l'essence d'un projet. Alors pour Julie Jung, Bad Kim So-hee est une exploration de la société coréenne et de son fonctionnement. Ce qui arrive à So-hee est un drame. Je l'ai évoqué tout en montrant la nature effroyable de la société dans son ensemble qui n'hésite pas à souiller la victime pour se dédouaner. C'est aussi tragique et déchirant que la disparition elle-même. Mon seul souhait est que tous ces enfants ayant connu un drame similaire ne soient pas oubliés et qu'ils restent vivants à travers So-hee. Voilà, il y a un gros travail sur les enquêtes et puis surtout sur certains faits qui apparemment ont fait quand même pas mal de bruit et ont voulu être étouffés. Mais c'est un film aussi pour découvrir aussi les conditions de travail.
Exactement.
Dans un pays qu'on dit développé, on est toujours attiré à boulet rouge sur des pays sous-développés, mais là, la Corée du Sud, désolé, hein,
Oui, souvent on n'a pas l'envers du décor et ça mérite effectivement d'en savoir un petit peu plus. Ouais.
Donc, About Kim So-hee, le dernier film donc, de Julie Jung, à découvrir à la brèche cette semaine en VO, sous-titré.
Voilà,
français.
Il y aura une interro écrite à la fin.
Voilà, en coréen.
Allez, on revient en France avec un rendez-vous qui est un documentaire cette fois-ci sur un sujet intéressant là aussi, c'est sur le traitement de personnes souffrant de troubles
psychiques.
Voilà, ouais. C'est très particulier ces soins-là et on va sur l'Adamant, c'est un bâtiment flottant, je suppose.
Absolument, c'est un bateau. On va aller sur la Seine.
Mais j'ignorais qu'il y avait ce type de.
Moi aussi, je l'ignorais totalement. Ouais. Alors, j'étais vraiment pas du tout au courant. C'est vraiment en regardant le film annonce que je me suis dit, ah oui, d'accord. Et c'est là que je l'ai découvert, quoi. Donc, sur l'Adamante, donc là, on n'est pas sur un film, on est sur un documentaire. Hein.
Ouais.
Un documentaire franco-japonais d'1h49, donc de Nicolas Philibert. Donc, l'Adamante est un centre de jour unique en son genre. C'est un bâtiment flottant édifié sur la Seine en plein cœur de Paris. Il accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, leur offrant un cadre de soins que les structures dans le temps et dans l'espace. Il les aide à renouer avec le monde, à retrouver un peu d'élan. L'équipe qui y anime est de celles qui tentent de résister autant qu'elles peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie. Ce film nous invite à monter à son bord pour aller à la rencontre des patients et des soignants qui en invente jour après jour le quotidien. C'est vrai que c'est une structure qui est pas banale quand même. Donc Nicolas Philibert a commencé à entendre parler de l'Adamante au début des années 2010, alors que ce n'était qu'un projet. À l'époque, la psychologue clinicienne et psychanalyste Linda De Zitter, avec qui le réalisateur est resté très lié depuis le tournage en 1995, donc de La Moindre Chose, à la clinique psychiatrique de la Borde, faisait partie de l'aventure qu'a été sa création. Pendant des mois, des patients et soignants s'étaient réunis autour d'une équipe d'architectes pour en jeter les bases. Et comme ils nous disent, et ce qui n'était à l'origine qu'une rêverie utopiste a fini par se réaliser. Des années plus tard, il y a 7 ou 8 ans, j'ai eu pour la première fois l'occasion d'aller sur l'Adamante. L'atelier Rhizome m'avait invité à venir parler de mon travail. Rhizome est un groupe de conversation qui a lieu chaque vendredi dans la bibliothèque. De temps à autre, 5 ou 6 fois par an, on y accueille un invité, un musicien, une romancière, une philosophe, un commissaire d'exposition. Ce jour-là, j'avais passé 2 heures devant un groupe qui s'était préparé à m'accueillir en visionnant quelques-uns de mes films et n'avait eu de cesse de me pousser dans mes retranchements. Depuis mes débuts de cinéaste, j'ai eu de nombreuses occasions de parler devant un public, mais cette fois, j'en étais revenu particulièrement revigoré, éperonné par les remarques des personnes qui étaient là. L'envie de faire un film en psychiatrie me travaillait depuis un bon moment, se rappelle-t-il. Donc Nicolas Philibert voulait se sentir libre et ne pas trop avoir à se préoccuper de l'architecture du film, persuadé que l'unité de lieu et les personnages autoriserait donc une construction disciplinée. Et comme il nous dit, suivre un personnage, le perdre, le retrouver plus tard, filmer une réunion, un atelier, l'accueil d'un nouveau venu, des échanges informels, et fixer tous ces petits détails qu'on pourrait trouver anodins et qui deviendraient le tissu même du film en train de se faire. J'ai toujours aimé improviser. Et avec le temps, l'improvisation est devenue pour moi comme une nécessité éthique. Ne rien expliquer surtout. Ne pas assujettir son film à un programme, à un vouloir dire préalable. Ne pas chercher à filmer utile. Traquer toute trace d'intentionnalité. Un cinéaste ne devrait montrer que ce qu'il ne sait pas encore, disait Marcel Hanoun. D'ailleurs, rien ne se passe jamais comme prévu. La présence d'une caméra rebat toujours les cartes. Et oui, c'est vrai, on n'est pas dans l'intimité totale. Faire un documentaire, c'est se frotter à l'accidentel, à tout ce qui échappe aux prévisions, à la dramaturgie. Les plus belles scènes sont celles qui naissent par surprise, sans préméditation. Parfois, il suffit d'être là, attentif à ce qui nous entoure, et d'y croire assez pour que cet endroit devienne un lieu, ces hommes et ces femmes, les personnages d'un récit, ces actions, à première vue anodines, d'authentiques histoires, précise le metteur en scène. Alors sur l'Adamante est le premier volet d'un triptyque. Donc Nicolas Philibert a tourné le second volet à l'Esquirol, donc à Charenton, au sein des deux unités intra-hospitalières qui relèvent du pôle Paris-Centre. Il s'intitulera Averroès et Rosa Parks, puisque c'est leur nom. Le cinéaste explique, il repose en grande partie sur des entretiens individuels entre patients et psychiatres. On y retrouvera quelques patients filmés sur l'adamante et d'autres. Il est en cours de tournage. Le troisième film regroupera des visites à domicile effectuées chez des patients par des soignants. Il n'a pas encore son titre définitif. Cette fois encore, on y retrouvera quelques visages connus. Il est presque entièrement tourné et en partie monté. Mais j'insiste sur un point. Les trois films sont complètement autonomes. Nul besoin d'avoir vu le premier pour voir les suivants. On pourra les voir dans l'ordre que l'on veut, n'en voir qu'un seul, etc. Ils ont en commun d'avoir pour cadre le pôle psychiatrique Paris-Centre, mais ce sont trois films bien distincts. Ils sortiront en salle à quelques mois les uns des autres. J'étais parti pour n'en faire qu'un et les choses ont tourné autrement. Et bien c'est chouette ça.
Ouais.
Il a vraiment trouvé avec son expérience du développement dans ses idées et puis surtout l'envie d'aller un petit peu explorer, d'aller un peu plus loin et puis d'aller voir d'autres structures, voilà, pour les gens qui sont curieux un petit peu de tout de le monde de la psychiatrie et des troubles psychologiques. Donc sur la demande, le dernier documentaire de Nicolas Philibert, donc à découvrir à la Brèche cette semaine.
On va parler d'histoire sur Radio Grand Air avec cette semaine au cinéma La Brèche à Sainte-Foy-la-Grande. Eh bien, un autre fait historique. Après le roi Louis XIII, cette fois-ci, on va retrouver le roi Louis XV.
Louis XV, oui.
On avance dans le temps. Et c'est encore une histoire de femme. Hein.
C'est une histoire de femme, bien sûr. C'est surtout une histoire c'est une drôle de femme, Jeanne Dubarry. Alors, j'en ai parlé vite fait juste avant les vacances. Je me rappelle quand j'avais évoqué un petit peu le projet.
Ouais.
Je vous ferai une fiche historique sur elle.
Ah, très bien.
Parce que c'est une vraie tragédie grecque. Hein. C'est quelqu'un qui vient du nulle part.
Je me rappelle, tu en avais parlé.
Oui. qui arrive, on va dire, de la rue et qui par le biais de son mari, donc le comte du Barry, est présenté au roi qui en fait sa principale qui en fait sa compagne principale, on va dire, et qui va être détesté par toute la cour, tout simplement, parce que c'est une roturière.
Ah oui,
parce que c'est une femme du peuple, la comtesse du Barry, et elle va se retrouver prise dans le tourment de la Révolution. Alors évidemment, elle va être encartée noble et puis surtout, elle va faire un faux pas de travers. C'est-à-dire qu'évidemment, elle va faire plusieurs voyages en Angleterre. Il faut savoir que pendant la Révolution française, bon nombre de nobles se sont réfugiés sur l'île.
Ouais, décidément.
Et donc, on va l'accuser d'intelligence avec l'ennemi, de complot et ainsi de suite. Et elle finira sur la guillotine. C'est pour ça que je te dis que c'est une vraie tragédie grecque, c'est-à-dire qu'elle est montée très haut dans le firmament et elle est redescendue très bas, et voire très très bas, voire 6 pieds sous terre. Et c'est vraiment, c'est une histoire tragique. Donc je vous ferai... Alors moi je vous la fais vraiment dans les grandes lignes, mais elle a été mécène, elle a protégé des artistes, des écrivains, des choses comme ça. Quoi. Donc c'est vraiment un drôle de personnage. Donc je vous ferai vraiment une fiche historique pour qu'on sache un peu plus sur elle. Et quand on passera le film, de toute façon ça sera. Alors il est en avant-première évidemment ce film. Jeanne Dubarry.
Avec un Johnny Depp qu'on va retrouver dans les acteurs principaux. C'est signé par une actrice française.
Absolument oui, c'est réalisé par Maïwan. Mais juste pour la petite histoire, on va le passer exactement au même moment où il sera projeté à Cannes.
Ah d'accord.
Mardi 16 mai, en ouverture du Festival de Cannes, à 20h30 à La Brèche. Voilà.
Si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Cannes,
Jeanne Dubarry.
Ouais, vous dépenserez moins d'argent, mais vous irez à Sainte-Foy-la-Grande le voir.
Voilà, vous aurez plus de place.
Plus de place aussi, ouais. Et vous n'aurez pas besoin de monter les marches.
Oui. Après, il faut être fan. C'est... Bon, mais je dis pourquoi pas. Jeanne Dubarry, un film franco, alors il est de France à Arabie Saoudite, d'1h56, c'est un drame historique de Maïwenn. Alors au niveau des acteurs, on va retrouver Maïwenn, Johnny Depp, qui joue le rôle de Louis XV, Benjamin Laverne, Pierre Richard.
Pierre Richard?
Oui.
Ah bon?
Noémie Lvovsky, India Air, Melville Poulpeau et Pascal Grégory. Alors, elle s'appelle Jeanne Vaubernier, fille du peuple, avide de s'élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa condition, oui, comme bon nombre de jeunes filles de cette époque. Son amant, le comte du Barry, qui s'enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au roi. Et il organise la rencontre via l'entremise de l'influent duc de Richelieu. Celui-ci dépasse ses attentes. Entre Louis XV et Jeanne, c'est le coup de foudre. Avec la courtisane, le roi retrouve le goût de vivre à tel point qu'il ne peut plus se passer d'elle et décide d'en faire sa favorite officielle. Scandale. Personne ne veut d'une fille des rues à la cour. Mais oui, ça ne se fait pas. Donc en 2006, donc Mai Wen a vu Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui n'est pas un grand film, et a immédiatement été fasciné par le personnage de Jeanne campé par Asia Argento, qui est une grande actrice par contre. Elle confie « Je me sens immédiatement en connivence avec elle. Elle me manque dès qu'elle quitte l'écran. Jeanne du Barry me séduit car c'est une loseuse magnifique. Peut-être parce que sa vie a des similitudes avec la mienne, mais ce n'est pas la seule raison. Je tombe amoureuse d'elle et de l'époque. Je me plonge dans une biographie très complète d'elle. Le désir de faire un film sur elle est immédiat, mais va être contrarié pendant 10 ans par un sentiment d'illégitimité à m'en emparer. À chaque fois que je termine un film, je me replonge pourtant dans ce livre, mais sans jamais parvenir à triompher de mon complexe d'infériorité. » Mais oui, c'est un film d'histoire, c'est pas simple. C'est pas simple, rien qu'au niveau logistique déjà, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc c'est après le tournage de Mon Roi en 2015 que Mai Wen s'est senti capable de s'attaquer au projet. Ma cinéphilie qui s'était renforcée au fil du temps et m'avait permis de savoir, à travers les films d'époque que j'avais pu regarder, ce qui me plaisait et me plaisait moins. Tout cela m'a permis de construire dans ma tête la manière dont je pourrais mettre en scène un film sur Jeanne du Barry, tout en ayant conscience de la quantité de travail que cela impliquait, se rappelle la cinéaste. Bon, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'elle a pris Barry Lyndon comme modèle, qui est un des plus grands films du monde cinématographique. Si vous ne connaissez pas Barry Lyndon de Stanley Kubrick, je vous conseille de vous mettre devant et d'écouter. Côté mise en scène, Mai Wen a voulu faire un film au rythme relativement lent, jamais contraint par la reconstitution historique, bénéficiant d'images très proches des tableaux du 18e et avec peu de gros plans ou de scènes trop découpées. Et elle précise, bref, un cinéma à l'opposé de celui que j'ai fait jusque-là où il fallait vraiment réfléchir les plans en amont au lieu de les créer sur le plateau. Habituellement, chez moi, la technique s'adapte aux comédiens. Là, ça devait être l'inverse. Je voulais que la star du film soit la caméra, la lumière, le chef opérateur. Il se trouve aussi que j'ai découvert sur le tard Barry Lyndon. Mais il était temps, hein. Il était temps, Mai Wen, franchement. Ça a été un choc titanesque. Et ça, je veux bien le croire. Et cela m'a conforté dans l'idée de ne pas casser les codes du classique pour en faire une mise en scène moderne, note la réalisatrice. Alors, la chose un peu curieuse, c'est qu'elle a tourné en 35 mm. C'est pas commun.
D'accord.
C'est pas commun et c'est plus coûteux, par contre, hein. Mai Wen a choisi le 35 mm par réflexe de spectatrice. La cinéaste trouvant que le numérique n'est pas adapté au film de l'époque. En partie, oui, c'est vrai. Elle ajoute, avec le 35 mm, il y a du grain. Les couleurs correspondent à la réalité. C'est somptueux. Et je savais aussi que cela créerait une tension particulière au moment du moteur. Car, pour économiser de la pellicule, on aurait tous devant et derrière la caméra, enfin, on aurait, oui, moins le droit à l'erreur. Et c'est vrai. Parce que ça coûte très cher la péloche. Je savais que ça rejaillirait dans le jeu et que ça allait aussi correspondre à la pression qui existait à Versailles où la spontanéité n'était pas de rigueur dans les échanges. Donc côté photographique, donc Mai Wen a rencontré plusieurs chefs opérateurs avant de faire appel à Laurent Dayan, dont elle avait adoré le travail sur Aline et plus largement l'aspect hétéroclite de sa filmographie comme Astérix Obélix, Mission Cléopâtre ou Place Vendôme. Laurent a une sagesse d'esprit et de regard qui allait parfaitement compléter mon caractère impulsif tout en respectant mes volontés. Aller vers quelque chose de classique, de beau, de pur, confie-t-elle. Alors évidemment, ça a été tourné où?
À Versailles.
Absolument, monsieur. Le tournage de Jeanne du Barry a eu en partie lieu.
Parce que Louis XV a vécu toute sa vie à Versailles. Hein.
Au château de Versailles.
Ouais.
Il est possible d'y tourner uniquement le lundi,
oui.
Jour de fermeture au public, et dans des lieux très précis. Les extérieurs, la chapelle royale, la galerie des glaces et le salon Hercule, Mai Wen précise, et dans les intérieurs, on n'a pas le droit aux bougies, à la fumée, à tout ce qui pourrait abîmer le lieu. De vraies contraintes comme pour un directeur de la photo. Ce qui explique que j'ai choisi de reconstituer certaines scènes en studio, car je voulais que rien ne puisse gêner le travail sur l'image. Et pour revenir à votre question, Versailles, j'ai choisi de filmer à travers les yeux émerveillés de Jeanne avec sa spontanéité. Jeanne jouit de se trouver dans ses décors, mais n'est jamais écrasée par eux. Alors, Mai Wen a longtemps cru qu'elle ne pourrait jamais jouer quelqu'un de débordé par les épreuves de la vie, par peur que cela court-circuite donc sa relation aux autres sur le plateau. Et il explique néanmoins, mais l'expérience de chacun de mes films m'a convaincu que je devais le faire. J'étais prête. Il y a évidemment d'autres comédiennes que j'aime, que j'ai envie de filmer et qui ont le caractère de Jeanne. Mais ça m'aurait fait tellement souffrir de la confier à quelqu'un d'autre. La frustration aurait été immense. Je connaissais trop le personnage, je la sentais trop proche de moi pour la confier à une autre. Réaliser et jouer dans le film était une question vitale et indissociable. Alors voilà un petit peu pour vous éclairer sur le tournage donc du dernier film de My Wayne, donc Jeanne du Barry. Alors évidemment, on va retrouver Johnny Depp en Louis XV.
Ça a changé.
Qui a un joli accent américain.
C'est plus Jacques Sparrow. Hein.
On va voir. Non, c'est plus Jacques Sparrow du tout. Mais on va voir comment ça se passe. Moi, je suis quand même assez curieux. C'est un film d'époque.
C'est intéressant.
C'est un film d'époque. Mais bon, après, j'ai un petit peu d'appréhension. Ça va prendre le film de Coppola où elle est passée carrément à côté. Sofia Coppola. Bon, on va voir. Hein. Mais je sais que ça risque de faire grincer les dents aux puristes.
Hein. Eh bien, suivre. En tout cas, vous le verrez en même temps que ceux qui vont découvrir à Cannes, au festival. Tu l'as dit donc, diffusion, ça sera le 16 mai. À partir de 20h30.
Je vais rappeler la date. Donc ça sera le mardi 16 mai, donc en avant-première, à La Brèche, à 20h30.
On se le dise.
Voilà. On va parler aussi d'une autre rencontre. Ça sera le dimanche 14 mai à 17h.
Ouais.
On a un réalisateur qui
vient. Ah oui, tu en avais un petit peu parlé, je crois.
Donc on va passer donc à la grande aventure. C'est une comédie de Benoît Mariage avec Bastien Huguetto, Catherine Deneuve et Thomas Soliveres, pardon. Donc je vous fais le pitch vite fait. Donc Habib est un jeune acteur qui rêve de théâtre et de cinéma, mais qui n'enchaîne pas des rôles sans envergure. Sa famille a bien du mal à comprendre cette passion qui ne lui rapporte pas un rond. Jusqu'au jour où il décroche un petit rôle de gigolo aux côtés de Catherine Deneuve. C'est le début de la grande aventure, mais aussi le début des problèmes. Donc c'est le dernier film de Benoît Mariage. Et donc à l'issue de la projection, ça sera une rencontre et échange à l'issue donc la projection avec le réalisateur, donc Benoît Mariage. C'est quand même le réalisateur de Les Convoyeurs attendent.
Ah oui, ouais.
Il y a Benoît Poelvoorde. L'autre, Cowboy, ou alors Les Rayures du Zèbre, qui était toujours avec Benoît Poelvoorde. Donc voilà, notre Benoît Mariage sera vraiment à La Brèche le dimanche 14 mai à 17h.
Eh bien, c'est noté, Pascal. On va tout de suite enchaîner, puisque le temps défile, on est pris par le cinéma, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les sorties de la semaine à La Brèche, et on va revenir sur un acteur qu'on va pouvoir voir dans le film le premier rendez-vous que tu as cité en début d'émission, Ma Langue au Chat. Oui. C'est l'acteur, mais pas que, Pascal Elbé.
On va parler de Pascal Elbé, oui. On va parler de sa filmographie. Alors Pascal Elbé, évidemment, il n'est pas qu'acteur. Il est acteur, scénariste, réalisateur. Il est né le 13 mars 1967 à Colmar. C'est où, Colmar?
C'est en France, mon cher.
C'est le Bas ou le Haut-Rhin?
Là, c'est le Haut-Rhin.
Exactement.
Ouais.
Ce qui nous fait un jeune homme de 56 ans, t'as eu chaud.
Non, mais...
Donc, Pascal Elbé, c'est 25 années de carrière, 73 films et séries tournées, 11 nominations, 0 prix.
Ah bon?
Pour 73 films, me dis donc.
Ah ouais, c'est
dommage.
Ils sont
dommage, pas gentils,
hein,
avec lui. Ah oui, quand même. Alors au niveau de la réalisation, il a réalisé en 2010 Tête de Turc avec Rush Dizem. En 2015, Je compte sur vous avec Vincent Elbaz et Julie Gayet. En 2021, il a réalisé On est fait pour s'entendre avec Sandrine Kiberlin et Valérie Donzelli. Et ça, ce sont ces trois films qu'il a réalisés. Alors au niveau de ces films où il a joué, alors évidemment, j'en ai sélectionné quelques-uns, pas tous, hein, vous pensez bien. Donc on le voit apparaître pour la première fois en 2019. Oh pardon, en 96.
Ah oui.
Oh, ça va pas.
C'était
en 96, dans Les chiens ne font pas de chat, d'Ariel Zeitoun avec Christian Charmetan et Natacha Amal. On va le retrouver en 96 aussi dans le film Fallait pas de Gérard Jugnot avec François Morel et Michel Larocque. En 2001, on le retrouvera dans Le Raid de Daniel Bensala avec Laurent Dutèche et Roche Dizem. En 2003, on le verra dans Père et Fils de Michel Boujna avec Philippe Noiret et Charles Berling. En 2006, on le verra aussi dans Mauvaise foi de Rush Dizem avec Cécile de France et Rush Dizem. En 2008, Un cœur simple de Marion Lenne avec Sandrine Bonner et Marina Foïs. En 2012, on le retrouvera dans Le Fils de l'autre de Lorraine Lévy avec Emmanuel DeVos et Jules Citruc. En 2016, on le verra dans Le cœur en braille de Michel Boujna avec Charles Berling et Laurent Capellito. en 2019. On le verra dans Rendez-vous chez les Malawas de James Hutt avec Michael Youn et Christian Clavier. Voilà quelques films dans lesquels il a joué en tant qu'acteur.
Voilà, moi je me rappelle un excellent film avec Bruel aussi, comme Les Cinq Doigts de la Main,
ouais.
Un film d'Alexandre Arcadi. Ouais. Voilà, ils sont cinq frères.
Oui, c'est ça, oui.
Et ils viennent à l'assaut d'un des frères qui est pris dans, je crois, dans un hold-up. Enfin bon, voilà, il y a la mafia.
Ça me dit vaguement quelque chose, oui.
C'est un très très bon film. Puis il me semble l'assaut sur cet avion qui est détourné en France, avec notamment le GIGN.
C'était pas Vincent Elbaz qui jouait?
Ah oui, pardon.
Je crois que tu confonds avec Vincent Elbaz.
J'ai confondu là.
Ouais.
Bien vu. C'est vrai.
Parce qu'il a élevé la biographie, sa biographie. Donc après une enfance passée à Strasbourg, donc Pascal Elbé fait ses débuts d'acteur sur les planches. S'illustrant au sein d'une troupe, il écrit avec ses compagnons deux pièces comiques qui se taillent un joli succès au Splendide et au Café de la Gare. Il s'intitule « Charité bien ordonnée » en 92 et « Tout baigne » en 95. On le retrouvera à l'affiche de l'adaptation cinématographique de la seconde de « Tout baigne » en 99, mais avant cela, il fera ses premières apparitions à l'écran dans des comédies de Gérard Jugnot, comme « Fallait pas » ou d'Ariel Zeitoun. Pascal Elbé accède à la notoriété en 2003 grâce à la comédie tendre de Michel Boujna, père et fils, dans lequel il campe l'un des trois rejetons de Philippe Noiret. Face à Charles Berling et Bruno Puzzoulou, il s'impose comme la révélation de ce film qu'il a coécrit et qui lui vaut une nomination au César du meilleur espoir. Il enchaîne alors les comédiens à tandem, comme dans L'amour aux trousses avec Dujardin, Le cactus avec Cornillac. Mais il ne se cantonne pas à ce registre puisqu'il fait une prestation remarquée dans le polar Les mauvais joueurs en 2005. Tantôt séducteur dans Tout pour plaire de Cécile Tellerman qui le redirigera de nouveau dans Quelque chose à te dire, tantôt meilleur pote dans Mes amis, mes amours, il joue avec son image d'homme viril en incarnant le compagnon de Lambert Wilson dans la comédie Gay Friendly comme les autres en 2008. Partenaire de Sandrine Bonner dans L'austère, un cœur simple, et de Sandrine Kiberlin dans Le léger romaine par moins 30, Pascal Elbé, fidèle en amitié, retrouve les réalisateurs de ses débuts, comme Ariel Zeitoun dans Le Dernier Gang en 2007, ou Michel Boujna dans Trois Amis. Et lorsqu'il passe à son tour derrière la caméra dans Tête de Turc en 2009, il confie le rôle principal de l'acteur qui le dirigea dans Mauvaise foi, qui est Rush Dizem. Gendarme dans le thriller Recherche dans l'intérêt des familles dans Riff, et homosexuel dans la comédie La cerise sur le gâteau, Pascal Elbé varie les genres. Mais c'est peut-être dans le registre dramatique qu'il est le plus actif, comme en témoignent ses prestations dans Le Fils de l'autre, ou 24 jours, ou alors La vérité sur l'affaire Liane Halimi est piégée, où il campe un soldat ayant accidentellement posé le pied sur une mine. Parallèlement, l'acteur donne de la voix pour les Disney, félins et Zootopie.
Ah d'accord.
Mais souvent, il y a quand même pas mal d'acteurs qui font justement les voix dans certains dessins animés, je sais pas... on peut retrouver Vincent Cassel.
Oui, c'est vrai.
Il prête sa voix aussi. Voilà, il y a toute une pléiade d'acteurs qui ou Jamel Debbouze des fois aussi.
Exercice en plus pas très facile, hein. Pas si évident que ça.
Voilà un petit peu pour vous éclairer sur la carrière de Pascal Elbé qui est loin d'être terminée, vous imaginez bien.
Eh bien, il y a de l'avenir devant lui. On espère qu'il aura effectivement un jour une récompense, en tout cas.
Oui, au bout de. Il a déjà 11 nominations. Bon. C'est qu'il a quand même été remarqué, oui, bien sûr, on lui souhaite plein de... Mais oui, de récompenses, bien sûr.
Bon, mais écoute, Pascal, on arrive au terme de l'émission. Le temps passe vite, hein. En tout cas, c'était très intéressant. On se retrouve sur les marches du Festival de Cannes à La Brèche, donc très prochainement.
Absolument, oui. Donc ça sera...
Pour l'avant-première, le mardi 16.
Le mardi 16, hein, ça sera l'ouverture du Festival de Cannes, oui, à 20h30 à La Brèche, en même temps que les Cannois. Et les stars de Cannes, vous découvrirez Jeanne Dubarry. Et
vous aurez mis le tapis rouge.
Le film de Maïwenn. Alors nous, on n'est pas trop tapis rouge, on est quand même plus simple, tu sais.
Ouais.
On n'a pas besoin.
Merci Pascal pour
Merci à toi,
nouveau rendez-vous, cette nouvelle émission consacrée au cinéma en tract. Et je te laisse le mot de la fin, bien évidemment.
Eh bien, prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air et bien venez au cinéma, et si vous n'y venez pas, bien profitez de l'extérieur.
On vient vous chercher. Le printemps.
Non, pas forcément, profitez de l'extérieur. Voilà, c'est le printemps. Allez vous balader en famille, voilà, prenez du bon temps.
Merci Pascal.
À
très vite sur les ondes.
Bonne semaine à tous.